Radio Botu 107.5.
Le Forum social des villages est né sous l'impulsion de plusieurs associations des Monts du Lyonnais qui souhaitaient créer un événement pour débattre sur des thématiques écologiques, économiques et sociales. Le premier Forum social des villages s'est déroulé donc en 2001 à Brulioles. En 2002, il a eu lieu à Montretier et en 2003 à Avez. Il portait sur le thème de la croissance ou de la décroissance avec pour invité Paul Ariès, Aurélien Boiteau qui a parlé de l'empreinte écologique et puis les élus Didier Jouve et Jean-Louis Cloy. Mais le Forum social des villages, c'est aussi 15 jours de rencontres à travers les villages des Monts du Lyonnais, rencontres et débats qui portent sur des questions très locales ou d'ordre plus général.
Bien. Donc, je vous propose de passer tout de suite à la deuxième partie pour ne pas... Je vous avais proposé une pause, c'est ce qu'on avait pensé au départ, mais je pense qu'elle n'est pas nécessaire, hein, sauf s'il y a des nombreux doigts qui s'élèvent. Vous êtes déjà installés, je pense, et prêts pour aborder la deuxième partie. Donc, je vais laisser Paul Ariès développer ces deux notions donc, qui nous tiennent à cœur sur ce débat, c'est développement durable et décroissance, un petit peu la pensée qu'il y a derrière, hein, puisque c'est je pense, une nouvelle pensée, il le formulera peut-être lui d'une façon différente, ou de nouvelles idées qu'on essaye d'exprimer pour un autre développement, ou peut-être d'autres mots à trouver.
Bonjour, je vous remercie de votre présence. Alors j'ai accepté d'être l'un des porte-parole du mouvement des objecteurs de croissance qui est en train de se développer au niveau international pour deux raisons qui ont déjà été évoquées cet après-midi. La première, c'est ce constat tout simple que 20% des humains consomment aujourd'hui 86% des ressources. Alors j'aurais tendance à dire tout ça ne serait pas bien grave si on pouvait espérer que demain tout le monde pourrait partager le gâteau. Et c'est là où les choses se gâtent puisqu'on sait que si nous devions tous vivre comme des Français moyens, une seule planète Terre ne suffirait pas et qu'il en faudrait au minimum 3. Autrement dit, la croissance, c'est pas la solution, c'est même un gros morceau du problème, et aussi bien pour les pays riches que pour les pays pauvres. J'aurais tendance à dire que nous savons tous que nous allons dans le mur. C'est même pas une question d'indicateurs, même si des indicateurs sont tout à fait nécessaires. La vraie question, c'est pourquoi nous n'y croyons pas. Pourquoi nous ne voulons pas nous rendre compte de ce que les scientifiques, de ce que chaque citoyen également, ressent chaque jour. Si nous n'y croyons pas, c'est parce que nous avons été complètement colonisés par l'imaginaire du développement économique, par l'idée que plus serait nécessairement égal à mieux. Et le mot d'ordre de la décroissance se veut donc un mot obus pour pulvériser cette idéologie dominante, pour tout simplement arriver à libérer un imaginaire nouveau. Mais la décroissance, ce n'est pas un nouveau discours écolo, plus soft ou plus hard. La décroissance, c'est la tentative, peut-être vaine, peut-être avortée, d'essayer de penser à la fois quatre grandes crises qui, à nos yeux, sont tout aussi importantes l'une que l'autre. La crise environnementale, la crise sociale, la crise politique et la crise de la personne humaine. J'aurais même tendance à dire que si on devait chercher ou proposer une articulation pour essayer de comprendre ces quatre grandes crises, ça serait sans doute dans la crise des valeurs qu'il faudrait aller la chercher. La crise des valeurs qu'on peut illustrer par un exemple tout simple. Notre société, elle est fondée sur la consommation. Or, aucune société ne peut exister durablement en étant fondée sur la consommation. Sinon, on va commencer par consommer et surconsommer des objets, puis on va poursuivre en consommant d'autres humains, développement de toutes les formes de violence aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les banlieues, mais on pourrait en parler également dans les ménages, ou dans les écoles, ou dans le monde de l'entreprise, et après avoir consommé, surconsommé des objets, après avoir consommé d'autres humains, eh bien on finit par se consommer soi-même. Développement des conduites à risque, développement de la toxicomanie, développement des suicides chez les jeunes et les vieux. La première crise qui nous menace, c'est sans aucun doute cette crise environnementale. Et je dirais que cette crise environnementale, ce n'est pas simplement la menace d'une mal-vie. Non, c'est véritablement la remise en cause des possibilités pour l'espèce humaine de continuer son aventure. Alors bien sûr qu'il y a un certain nombre, j'allais dire, d'illusions scientifiques dans un certain nombre de cénacles haut placés, où on commence à imaginer comment pourrait-on faire muter génétiquement toute ou partie de l'espèce humaine pour arriver à faire que ça soit tenable. Mais je dirais que cette crise environnementale, elle ne doit pas nous surprendre. Notre ami Albert Jacquard le rappelle merveilleusement dans son bouquin « L'équation du nénuphar », il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini. Or pourtant, c'est ce qu'on continue à nous apprendre sur les bancs de l'école, où on fait comme si l'économie, c'était une réalité en l'air qui ne reposait pas effectivement sur le sol. On peut prendre un exemple pour en être tout à fait convaincu. La population humaine était de 250 millions au moment de Jésus-Christ. Si nous avions connu un taux d'accroissement de la population de 0,5% jusqu'à aujourd'hui, nous serions 5 000 milliards. Donc on se rend immédiatement compte qu'effectivement, l'idéologie croissanciste, l'idéologie de la croissance, c'est non seulement une imposture, mais c'est un véritable danger pour l'humanité. Et on l'a vu tout à l'heure, tous les indicateurs sont au rouge. Changement climatique, érosion de la biodiversité, pollution de l'air, de l'eau, des sols, épuisement des ressources, risques liés également aux nouvelles technologies, etc., etc. Et puis, je crois qu'on a eu raison de le rappeler également, cette dégradation de l'environnement, c'est aussi un facteur d'inégalité. Les pays les plus pauvres sont les premières victimes, car très souvent, la phase de décollage économique, c'est effectivement la phase la plus polluante. Et même chez nous, je dirais, les populations qui souffrent le plus des pollutions de tout type, ce sont les populations des quartiers populaires. Et je dirais qu'il y a bien sûr une responsabilité tout à fait particulière dans cette menace pour l'avenir de la planète. Il suffit de citer deux, trois chiffres. Un Américain consomme 20 fois plus de gaz à effet de serre qu'un Indien. Un Européen, 8 fois plus qu'un Ghanéen. Alors les conséquences de cette situation, vous les connaissez. Un, c'est bien sûr l'épuisement des ressources. Les chiffres ont déjà été donnés, 40 ans de pétrole, 2 siècles de charbon. Mais je dirais que tout ça, finalement, c'est peut-être pas le plus grave. Prenons la question de l'eau. La quantité d'eau potable par habitant va diminuer d'un tiers en 20 ans, puis de moitié dans les 40 ans. C'est-à-dire qu'après les guerres pour le pétrole, nous allons avoir effectivement des guerres extraordinaires pour l'eau. Deuxième menace, mais vraiment à court terme, c'est le réchauffement planétaire. Et je dirais que la vraie question, ce n'est pas de savoir quand le ciel va nous tomber sur la tête, mais c'est de savoir combien on peut émettre de gaz à effet de serre si on ne veut pas bousiller la planète qu'on va transmettre à nos enfants ou à nos petits-enfants. Or là-dessus, je dirais que la communauté scientifique est unanime. La Terre peut absorber 3000 tonnes d'équivalent carbone par an. Le problème, c'est que nous en émettons le double. Donc la question, c'est effectivement comment arriver, si on se projette à l'orée de 2050, à environ 500 kilos d'équivalent carbone par personne et par an. 500 kilos d'équivalent carbone par personne et par an, c'est moins de 10% de l'émission d'un Américain aujourd'hui, donc une division par 12 de leur consommation. C'est également une division par 6 pour un Européen. Mais je dirais que la situation ne serait pas bien sûr aussi sinistre, par exemple pour les Hindous, qui pourraient passer à 120%, et puis les Népalais pourraient consommer 20 fois plus. Mais qu'est-ce que ça représente, 500 kilos d'équivalent carbone? C'est-à-dire que si nous prenons encore nos valeurs comme la notion d'égalité au sérieux, qu'est-ce que ça veut dire que ne pas prendre la part du voisin? 500 kilos d'équivalent carbone, c'est un aller-retour en avion Paris-New York. C'est le tiers de la fabrication d'une petite voiture. C'est 5000 kilomètres par an en voiture. C'est 2000 litres de lait, etc., etc. On mesure immédiatement l'importance des enjeux. Et on comprend également que la solution, ça ne peut pas être de faire la même chose en moins. C'est-à-dire que le discours de la décroissance n'est pas un discours appelant à se serrer un peu plus la ceinture. Il s'agit d'inventer collectivement un autre mode de vie. Il s'agit non pas seulement de partager autrement le gâteau, mais de changer la recette du gâteau. Et le temps que nous allons mettre pour réagir est tout à fait fondamental. Parce que plus nous allons attendre, plus les problèmes seront importants. Et plus le temps pour réagir sera long, plus la stabilisation prendra du temps. Même si nous décidions aujourd'hui, tous à l'échelle planétaire, d'arrêter de polluer, eh bien il faudrait 150 ans pour que l'écosystème se rétablisse. La deuxième menace qui nous concerne, c'est la menace d'effondrement social. Et j'aurais tendance à dire que le choix, pour l'essentiel des humains, pour ces 80% d'humains qui ne consomment que 20% des ressources, le choix pour l'essentiel des humains, il n'est pas entre la croissance et la décroissance. Le choix, il est entre la récession, c'est-à-dire la croissance négative, l'austérité, et la décroissance. Il n'y a rien de pire qu'une société fondée sur le travail sans boulot. Il n'y a rien de pire qu'une société fondée sur la croissance sans croissance. Donc, effectivement, cette société, elle n'est pas simplement dangereuse sur le plan environnemental, elle est aussi inacceptable socialement. Un chiffre seulement. Les trois familles les plus riches de la planète ont un revenu supérieur au PIB total des 48 pays les plus pauvres. Et 4% de la richesse des 225 personnes les plus riches permettrait de donner accès aux besoins de base et aux services de base de toute la population de la planète. J'en profite donc également pour dire que le discours de la décroissance, ce n'est pas un discours malthusien ou néo-malthusien. Il n'y a pas trop d'humains sur Terre. Non, ce dont nous souffrons, c'est effectivement d'un mauvais partage des richesses et d'un choix d'un certain type de richesse qui ne peut être accaparé que par une infime minorité. Le problème, c'est que cet effondrement social, il ne peut pas rester sans conséquences, et que globalement, les deux conséquences qui se profilent à l'horizon, c'est d'un côté ce qu'on pourrait appeler le développement de Big Mother, hein, une sorte de grand-mère dévorante, une mauvaise mère, une sorte de société adolescentrique. Je dirais tout simplement ce que le patron de TF1 vantait l'an dernier en disant que son boulot, c'était de laver la cervelle de nos gamins pour le louer aux grandes sociétés pour faire de la publicité. Et je dirais que cette véritable entreprise de crétinisation de masse, c'est aussi, bien sûr, une des tentatives pour arriver à faire que tout ça puisse tenir. Je voudrais citer l'une des formules célèbres. Alors, je dirais que c'est un provocateur, donc nous arrêtons pas au terme lui-même. Mais je dirais que c'est intéressant de regarder quels sont parfois les fantasmes des maîtres de ce monde. Zbigniew Brzezinski, c'est pas n'importe qui. Brzezinski, c'est le président fondateur de la trilatérale, ce club des superpuissants à l'échelle de la planète. Et Brzezinski nous dit... Mais il nous dit bientôt l'économie mondiale n'aura plus besoin que de 20% des humains. Donc que faire des autres? Alors il ne propose pas de les éliminer, il dit, je cite dans le texte, « Il faut créer un cocktail d'alimentation suffisante et de divertissement abrutissant pour maintenir dans la bonne humeur les 80% de population frustrée de la planète. » Lobsterisation, disneylisation, McDonaldisation, chacun pourrait illustrer à sa façon. Mais à côté de cette tendance, je dirais, à Big Mother, c'est aussi le renforcement de Big Brother. C'est-à-dire que cette société inégalitaire, c'est une société impossible. Et je dirais que ça ne peut conduire qu'au renforcement de l'appareil répressif. Ça ne peut conduire également qu'au renforcement de ce qu'on appelle aujourd'hui le biopolitique, soit sous ces formes douces, et j'ai été très content des réactions d'un certain nombre de lycéens cette semaine, lorsqu'on a introduit effectivement dans leur établissement un nouveau système d'identification biologique pour la cantine, c'est-à-dire qu'il fallait vérifier tout simplement les empreintes digitales, et je dirais qu'il y a ces formes douces, entre guillemets, et des formes plus dures, comme les fantasmes d'arriver à terme à implanter des puces sous-cutanées, soit d'abord aux déviants, puis ne nous l'aurons pas à l'essentiel de la population. Après l'effondrement environnemental, l'effondrement social, l'effondrement de la personne humaine. Notre société est une société pathogène. Et je dirais que c'est une société qui crée des malades à la fois sur le plan physique et sur le plan psychique. Sur le plan physique, on sait très bien aujourd'hui ce qu'il en est, par exemple, du développement des cancers, dont l'essentiel sont dus, je dirais tout simplement, à notre mode de vie, à l'environnement. Mais pensez ne serait-ce qu'au développement de l'obésité. Un jeune sur quatre aux États-Unis, et on sait que la France est le meilleur élève. Et ça, je crois que c'est presque une sorte, de métaphore de notre société, où on est tellement mal à l'aise, où on a tellement détruit les identités, eh bien qu'on pense faire le plein avec du vide. Et on va être sur une logique boulimique. Alors pour certains, ça va être, je dirais, du Nutella, et puis d'autres, quand on est un peu stressé, on prend sa carte de crédit et on va faire le tour des boutiques. Mais je dirais qu'on voit très très bien en quoi, je dirais que c'est une société qui n'est pas tenable, et moralement. Je dirais que c'est une société qui crée également des maladies. Pensez au dernier rapport de l'Académie nationale de médecine en France. Un jeune sur sept actuellement en France est porteur de pathologie mentale, toute pathologie mentale confondue, contre, il y a à peu près une vingtaine d'années, 1 sur 60. Mais ce n'est pas une situation franco-française. Si vous prenez sur le site, par exemple, du ministère de la Santé au Québec, un jeune sur cinq. Aux États-Unis, un jeune sur trois. Alors nos amis américains nous disent, mais c'est votre thermomètre qui est malade. C'est-à-dire que vous considérez comme aujourd'hui malades des individus qui finalement sont des cas limites. C'est-à-dire que ce qu'on nous propose, eh bien, c'est tout simplement des traitements, je dirais, massifs d'une partie de la population qui ne tient plus, qui ne résiste plus. Mais cet effondrement de la personne humaine, elle est voulue, elle est théorisée, elle est légitimée. Deuxième personnage essentiel, Alvin Toffler. Alvin Toffler, ce n'est pas n'importe qui. C'était l'un des conseillers du président Clinton. C'est lui qui a été chargé de rédiger, mettre la dernière main à la rédaction du rapport sur ce que serait la position des États-Unis au XXIe siècle. Et Toffler nous dit, l'humanité est à la veille de vivre sa deuxième grande révolution. La première grande révolution de l'humanité serait été le passage du paléolithique au néolithique. Le développement de l'agriculture, la sédentarisation. Et la deuxième révolution qui nous annonce pour demain matin, c'est, je cite, l'effacement, la disparition du sujet individuel. Jusqu'à présent, on savait à peu près qui on était. Hein, c'est-à-dire qu'on bricolait nos identités. Eh bien ça sera bientôt terminé. Du moins, c'est ce qu'on nous annonce. Et Toffler nous dit, mais c'est fantastique. C'est fantastique parce qu'on va pouvoir passer de la logique de la passion à la logique de l'intérêt. Il nous dit, la passion, c'est toujours mauvais. Dans le domaine politique ou religieux, ça donne des guerres. Et même dans le domaine sentimental, on dit bien qu'on tombe amoureux, c'est de la preuve qu'il y a de l'irrationnel là-dessous. Or, l'irrationnel, c'est pas très économique. Donc chassons l'irrationnel et jouons simplement sur une pure logique économique. Je dirais que ce troisième grand effondrement, cet effondrement de la personne humaine, c'est ce qui me conduit à dire que si je suis objecteur de croissance, c'est pas seulement parce qu'on va dans le mur, c'est pas seulement parce qu'il y a des limites physiques à la croissance. Même s'il était possible d'aller toujours plus loin, et surtout s'il était possible d'aller toujours plus loin, ça serait une raison de plus de le refuser pour pouvoir rester tout simplement des humains. C'est-à-dire que nous sommes en train de sombrer totalement dans ce que les Grecs anciens considéraient être le summum des péchés, l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Ce qui caractérise notre société, c'est d'avoir complètement cédé pour des raisons lourdes, à la fois au culte de la toute-puissance, à l'idée d'un monde sans limite. Et je dirais que la seule façon aujourd'hui de résister, c'est cette capacité à se donner des limites. Il n'y a pas de liberté si nous ne sommes pas autonomes. Il n'y a pas d'autonomie si nous ne sommes pas capables de nous donner des limites. Si un individu n'est pas capable de se donner des limites, eh bien les limites, il va le chercher dans le réel. Ça veut dire quoi ? Développement des conduites à risque, développement de la toxicomanie. Si une société n'est pas capable de se donner des limites, eh bien elle va aussi les chercher dans le réel, épuisement des ressources, réchauffement planétaire, etc. Quatrième crise, mais je vais passer très rapidement, ça serait une crise politique. C'est-à-dire qu'on voit très bien aujourd'hui le décalage qui existe entre la hauteur des enjeux, des problèmes, et effectivement les réponses qui nous sont faites. Et je crois que cette crise politique, c'est véritablement peut-être le premier moment où il faut intervenir. C'est-à-dire que ce n'est que dans la mesure où nous redeviendrons pleinement des citoyens, où pleinement la démocratie refonctionnera, que nous pourrons effectivement proposer des solutions qui seront profitables au plus grand nombre. Parce que nous ne nous l'aurons pas. Je dirais notamment avec l'épuisement des ressources. Ce que disait Hubert Védrine il y a quelques mois dans Le Monde risque de se réaliser. Hubert Védrine disait, si vous avez raison, eh bien ça promet des jours sombres.Ce que rien ne pourrait s'opposer à ce que des peuples, pour espérer sauver leur mode de vie face à la disparition du pétrole, s'en remettent effectivement à des pouvoirs forts. Donc, effectivement, l'enjeu politique est aujourd'hui extraordinaire. Et je dirais que la décroissance, ça part de là. Ça part de la tentative d'essayer de comprendre à la fois ces quatre grandes crises. Et j'aurais tendance à dire que ce qui me semble caractériser notre société, c'est l'inversion du sacré et du profane. C'est-à-dire que nous n'avons de cesse de profaner le sacré. Un certain nombre de valeurs que nous sommes données, la liberté, l'égalité, la fraternité, le génome humain. Et à côté de cette profanation du sacré, eh bien, nous sacralisons du profane, le culte de l'argent, le culte de la technique, le culte du paraître. Pensez au succès extraordinaire du film « Être ou avoir ». Ça montrait quoi, ce succès ? C'est que les gens croient encore à la nécessité d'être davantage que le fait de posséder. Et malheureusement, de plus en plus, je dirais, ce qui nous menace, c'est même plus l'être ou l'avoir, mais le paraître. Simplement, on pourrait en parler avec l'idéologie des marques. Mais je crois que cette sacralisation du profane, c'est la définition même du totalitarisme que donnait la grande philosophe américaine Hannah Arendt. Et ce qui nous menace, c'est effectivement une nouvelle forme de totalitarisme. Et la décroissance, je dirais que ce n'est pas une pensée prête à l'emploi. Elle indique simplement un lieu où penser. Il y a une théorie critique de la croissance. Mais pour l'instant, il n'y a pas de théorie de la décroissance. Je crois que la première chose que nous dit la décroissance, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule, je dirais, envers l'injustice commise contre les plus faibles, mais aussi contre les générations futures. Et la décroissance, elle est là aussi pour dénoncer les fausses solutions. Première fausse solution, c'est la foi dans le progrès. On trouvera bien une solution. Mais je dirais que cette foi dans le progrès, c'est une perversion de l'idéologie du progrès. L'idéologie du progrès au XVIIIe siècle, c'est la foi dans la culture. Aujourd'hui, l'idéologie du progrès, c'est quoi ? C'est la foi dans la science et la technique. C'est la foi dans les OGM pour nourrir la planète. C'est la foi dans les utérus machiniques pour combattre l'inégalité sexuelle, etc., etc. Donc dénonçons effectivement déjà cette illusion scientiste. Deuxième danger, c'est la foi dans le développement durable. Je dirais que le développement durable, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est à la fois l'aveu qu'on s'est planté. Pendant très longtemps, on a dit, vous inquiétez pas, on va faire du développement et je dirais qu'on aura demain le bonheur sur Terre. Donc on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai, donc on éprouve le besoin d'accoler deux termes. Mais ce n'est pas parce qu'on accole deux termes contradictoires qu'on a pour autant la solution. Et je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde est pour le développement durable. De Total, la société Total à Chirac, du MEDEF au Front National. Je dirais que le développement durable, à partir du moment où, effectivement, il est repris par tout le monde, chacun éprouve le besoin de le préciser. Et il est évident que je serais pleinement d'accord, sans doute avec beaucoup de définitions du développement durable. Cependant, je crois que le développement durable, si on veut le prendre au sérieux, il faut se rendre compte qu'il y a un piège. Ce piège, ce serait de croire qu'il suffirait de polluer un peu moins pour pouvoir polluer plus longtemps. J'aurais tendance à dire, c'est la petite fleur sur l'hélico de Nicolas Hulot. Hein, c'est la révolution du brossage de dents. Et je dirais que le grand défaut de la révolution du brossage de dents, où on arrête le robinet au milieu, c'est de ne jamais remettre en cause les logiques financières, les intérêts des grandes sociétés transnationales, qui sont quand même pas tout à fait pour rien là-dedans. Je crois que l'une des critiques que l'on peut porter au développement durable, c'est de nous laisser croire que l'on aurait là la solution. J'aurais tendance aussi à dire qu'on pourrait prendre au sérieux les partisans du développement durable lorsqu'ils sont en situation de responsabilité s'ils disaient, eh bien on va refuser, on va démanteler les 50% de panneaux publicitaires illégaux qui se trouvent dans nos rues. S'ils disaient, on va, pour ce qui concerne la France, abroger la circulaire langue qui fait rentrer par la fenêtre la publicité qui reste interdite par la porte à l'école. Si on avait adopté ce que proposait la Suède, c'est-à-dire l'interdiction de la publicité en destination des enfants aux heures où un enfant est peut-être normalement devant son poste de télé. C'est-à-dire que le développement durable, aujourd'hui, c'est une sorte d'auberge espagnole. Et de ce fait-là, ça peut contribuer à désarmer les gens et à ne pas prendre conscience, effectivement, des enjeux. Mais que les choses soient claires. La croissance infinie, c'est une stupidité. La décroissance illimitée, c'est tout aussi stupide. Et je dirais que les objecteurs de croissance ne sont ni des pisse froids, ni des durs à jouir. La décroissance, c'est pas le retour du passé. C'est pas l'apologie de la bougie. Même si, pour un repas amoureux, ça peut présenter certaines vertus. Et j'aurais tendance à dire, pour que les choses soient claires, même si les sociétés féodales étaient des sociétés respectueuses de la nature, c'est pas notre truc, c'est pas notre tasse de thé. Pour nous, la notion essentielle, c'est celle d'égalité entre les humains, et nous entendons pleinement inscrire notre combat dans la continuité de nos anciens pour l'humanisme, pour la République. Et je dirais que la décroissance, c'est pas non plus la décroissance de tout pour tous. C'est évident que la décroissance, elle sera forcément sélective et équitable. Il y a des choses qui vont croître, il y a des choses qui vont décroître, Mais tout ceci, sinon nous ne serions pas honnêtes, dans un contexte global de décroissance. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage politique, mais pour nous c'est facile parce qu'on est tellement minoritaire qu'on ne risque rien, de dire, eh ben demain on ne rasera pas gratis. Je dirais, il faut en finir avec l'idéologie de la prospérité. Entre nous d'ailleurs, tant mieux, parce que ce n'était pas franchement le pied. C'est-à-dire que je crois que de la même façon que Charlie Chaplin a parfaitement déconstruit l'idéologie du travail, les forçats du travail, dans son merveilleux film « Les temps modernes », eh bien il faudrait également déconstruire l'idéologie de la consommation. C'est-à-dire que nous sommes tout autant forçats de la consommation que forçats du travail. Et donc pour cette raison, en finir avec cette idéologie de la prospérité, c'est pas forcément un mal. Donc la décroissance, elle concerne les trop croissants, les ex-croissants, à la fois sur le plan individuel, mais aussi, je dirais, sur le plan collectif. C'est-à-dire que certaines nations sont bien sûr plus proches, je dirais, d'un point de rupture que d'autres. La décroissance, elle pose des questions pratiques. Elle pose la question de la relocalisation de l'ensemble de nos activités. Pensons qu'en moyenne, un pot de yaourt parcourt 3000 km avant d'arriver dans nos assiettes. Et je dirais que cette question de la relocalisation, il y a des enjeux juridiques, il y a des enjeux fiscaux, et puis il y a toute une révolution mentale. Nous, objecteurs de croissance, nous sommes pour les transports collectifs plutôt que les transports individuels, mais nous sommes plutôt pour pas de transport du tout, plutôt que les transports collectifs. C'est-à-dire que toute question de transport doit être rabattue à la question de l'utilité de ce transport. Et ce qu'il va falloir effectivement, à l'avenir, réfléchir, eh bien, je crois que c'est un autre rapport à l'espace. C'est-à-dire comment arrêter cette idée, je dirais, d'une conquête toujours plus grande de l'espace pour densifier au contraire nos espaces, redécouvrir la notion de pays, la densifier, lui donner du contenu. Ça veut dire aussi changer notre rapport au temps, faire primer systématiquement les temps lents sur les temps rapides, la priorité au TER sur le TGV. Ça veut dire aussi la priorité au temps long sur plusieurs générations sur les temps courts. Ça nécessite effectivement toute une éducation. Ça ne peut pas venir comme ça. La décroissance pose bien sûr la question aussi, comment desserrer la contrainte de l'économie. Mais là, je crois que nous avons des expériences extraordinaires. Au 19e siècle, les meilleurs ouvriers, on les appelait des sublimes. Et pourquoi les appelait-on du sublime? Parce qu'ils fêtaient ce qu'on appelait la Saint-Lundi. C'est-à-dire que très souvent, ils ne se disaient pas « je vais essayer de gagner le maximum et après je me pose la question de savoir comment je vais dépenser cet argent ». Ils se disaient « de quoi est-ce que j'ai besoin ?» Et en fonction de ces éléments, eh bien, on travaillait simplement le nécessaire. Globalement, tous collectivement, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là parce qu'il y a une pression sociale extraordinaire. Comment desserrer cette contrainte? Peut-être, par exemple, en développant un revenu universel inconditionnel. Le problème n'est même pas financier ou économique, il est d'abord moral. Mais ce revenu universel inconditionnel, il doit être bien sûr lié à ce qui sera un revenu maximal d'activité. C'est aussi toute la question des services publics, la question de la gratuité qui doit être posée. Je crois qu'il faut qu'on soit conscient que dans notre société, il reste encore des pans entiers de gratuité, ne serait-ce que dans les relations entre les personnes. Donc nous avons énormément de terrain sur lequel on peut effectivement prendre appui. Je dirais, pour aller vite, pour conclure, que les objecteurs de croissance proposent aujourd'hui trois formes de résistance. La première, c'est ce qu'on appelle la simplicité volontaire. Ce terme est emprunté à nos habits québécois. La simplicité volontaire, c'est quoi? C'est essayer de vivre en conformité avec nos idées. Essayer d'avoir un mode de vie qui ne nuise pas trop aux voisins ni aux générations futures. Et c'est vrai que très souvent, eh bien, on avait tendance à remettre au lendemain du grand soir la transformation de nos modes de vie individuels. Donc, tout ce qui peut se faire pour réduire individuellement son empreinte écologique, tout ce qui peut être fait pour arriver effectivement à préserver la planète pour les autres est tout à fait salutaire. Mais s'il n'y avait que ça, ça serait un piège effroyable. Parce que dans ce cas-là, les objecteurs de croissance seraient les meilleurs soutiens du MEDEF. C'est-à-dire que le discours de la décroissance, ce serait simplement un discours qui tendrait à dire ben, « il faut apprendre à faire avec moins, il faut se serrer un peu la ceinture, fini les vaches grasses », comme avait dit le baron de Seyer. Donc, les objecteurs de croissance, c'est sûrement pas ça de dire « salaud de pauvre qui osait encore revendiquer alors qu'il y a plus pauvre que vous ». D'où la nécessité d'un deuxième niveau, après la simplicité volontaire. Je dirais simplement sur la simplicité volontaire, il y a mille façons et on peut en rire. C'est-à-dire pour certains, ça va être effectivement le refus de prendre l'avion. Pour d'autres, ça va être le fait de se débarrasser de leur deuxième ou de leur première voiture. Pour d'autres, le fait de ne pas avoir de frigidaire. Pour d'autres, je dirais peu importe. L'essentiel, c'est que chacun s'engage dans un processus de remise en cause de cette logique de consommation irresponsable. Et de se dire, là, finalement, de quoi est-ce que j'ai besoin ? Donc, deuxième niveau, c'est le niveau des expériences collectives. Il faut toujours faire très attention à tout ce qui se passe en marge dans la société. Et je dirais que ces expérimentations collectives, c'est bien sûr le développement des écovillages, c'est le développement de la culture bio, des AMAP, c'est le développement de slow food, c'est le développement de la relocalisation, c'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui ici. Ces expériences collectives, c'est quelque chose d'essentiel. Il n'y aura pas d'alternative si effectivement on n'a pas cet ancrage dans nos pratiques quotidiennes, cet ancrage dans le local. Mais là aussi, s'il s'agissait simplement de bricoler entre nous, ça serait un piège effroyable. Parce que nous ne ferions rien d'autre que de banaliser la dualisation de la société. Lorsque je fais des conférences sur la décroissance, je suis toujours très heureux de constater, par exemple dans un certain nombre de villes, la présence importante de RMistes. Ben, c'est très bien que des RMistes puissent rejoindre la décroissance. J'allais dire très souvent, ça leur redonne une dignité. Mais en même temps, si la décroissance tendait à dire aux RMistes « Mais soyez bien contents de ce que vous avez déjà et faites avec », eh ben, je dirais que dans ce cas-là, on ferait plutôt un sale boulot. Troisième niveau donc d'articulation nécessaire, eh ben, c'est l'ébauche du début d'un commencement de ce qui pourrait être demain un projet politique. C'est-à-dire d'une façon de réfléchir collectivement quel type de loi aura-t-on besoin, de quelle réforme pour avoir effectivement un fonctionnement démocratique. Et ce n'est qu'à ce niveau-là qu'effectivement nous arriverons à enclencher des dynamiques de rupture. Et je voudrais terminer en disant que si le terme de décroissance, aujourd'hui, parcourt un peu les pays, pas seulement d'ailleurs les pays riches, puisque des collectifs pour la décroissance se sont créés dans plusieurs pays africains et d'Amérique latine, ce qui montre bien que ce n'est pas seulement un problème de riches. Eh bien, je crois que c'est aussi parce que nous éprouvons tous le besoin de tirer les leçons de quatre grands échecs historiques. L'échec du système dominant actuel, du capitalisme libéral, l'échec de ce qui a été le modèle du socialisme réellement existant, qui sur le plan humain et environnemental est loin d'avoir fait mieux. L'échec également d'une certaine social-démocratie. Et les difficultés également d'une certaine écologie à traduire, ben je vais dire politiquement, dans les faits, ce qui a été au départ sa raison d'être. Et ce qui reste sa raison d'être. Donc, les objecteurs de croissance n'ont surtout pas, je voudrais terminer là-dessus, prétention à avoir réponse à tout. Je crois que si la pensée de la décroissance peut être utile, c'est simplement dans la mesure où, premièrement, elle essaye de regarder assez loin, et dans la mesure où elle introduit des fissures, des cassures, des failles dans notre imaginaire, aussi bien individuel qu'au collectif. Voilà, je vous remercie pour votre patience.